Boomerang avec le romancier Patrick Rambaud, 68. C'est parti. C'est une affiche qui a pris un sacré coup dans le dos. Une affiche qui se vend des fortunes aux enchères aujourd'hui. On la trouve en noir, en ocre, en orange et puis en rouge naturellement. Sérigraphie de 68 avec ce dessin d'un bras tenant une clé à molette bousculé par une main tendant un pistolet. En lettres majuscules, ce slogan devenu culte. Travailler maintenant, c'est travailler avec un pistolet dans le dos. On la trouve dans tous les livres de 68, cette affiche, comme la trace d'une colère, d'une résistance, d'une époque aussi. On en a fait un souvenir ou une œuvre d'art, comme un témoignage d'hier et d'ailleurs. Travailler maintenant, c'est travailler avec un pistolet dans le dos. À l'époque, on l'a peut-être oublié, il s'agissait pour les ouvriers en grève de revendications pour plus d'autonomie, de reconnaissance, de sécurité. Revendications qui visaient l'autorité de l'État et des patrons. Revendications qui n'étaient pas salariales, mais qui visaient à l'autogestion. Cette affiche en lettres capitales, sous ces airs de cris de colère, c'est le programme d'une révolution. Il y a quelque chose de terrible à la voir sur les murs d'une galerie ou d'un salon, privé de son sens premier, réinterprété, muséifié. Un sacré coup dans le dos.
Boomerang, boomerang. Mai 68.
Augustin Trapenard.
Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Avec quel combat mon invité d'aujourd'hui fait-il rimer mai 68? Il est de ces écrivains que l'on présente bien souvent comme un 68art. Alors on lui demandera ce qu'il en dit. Toujours est-il que sa plume satirique est crainte par tous les puissants de ce monde, de Nicolas Ier à François le Petit. À l'occasion des 50 ans de mai 68, reparaissent ses aventures de mai, chronique presque jour par jour, d'un joli mois mémorable. Bonjour Patrick Rambaud.
Bonjour, mais c'est pas presque jour par jour.
C'est jour par jour.
C'était en mai 98 que c'est sorti dans le monde sur une double page.
Pour les 30 ans de mai 68.
Oui, pour les 30 ans. Et j'avais à refaire le 2 mai, devait ressembler au 2 mai de l'époque. Et c'était pas les mêmes jours. Ça tombait pas sur les mêmes jours et je me suis payé tous les week-ends. Et vous savez ce qui était patent à l'époque, et en France d'ailleurs, c'est que le dimanche, il y a récré. Et toutes les dames en vison venaient visiter les restes des barricades.
Vous les avez vues?
La Sorbonne. J'en ai vu à la Sorbonne, qui visitait tout ça. Et puis le lendemain, ça recommençait.
On entend votre rire, Patrick Rambaud. Mais d'abord, travailler maintenant, c'est travailler avec un pistolet dans le dos. Cette affiche de mai 68, qu'est-ce qu'elle vous évoque, à vous?
Vous m'avez demandé de nommer un objet qui me rappelle cette époque-là. Bah, c'est très simplement la MAD 49, c'est-à-dire le pistolet mitrailleur de l'armée de l'air, parce que j'étais dans l'armée de l'air. En fait, j'étais à Nanterre en 66, j'y suis resté en fait 2 mois et demi, j'ai trouvé ça tellement scolaire que je suis sauvé à toute vitesse.
Alors ce pistolet, il faut nous le décrire d'abord, comme on est à la radio.
Bon, c'était un truc noir, qu'on tirait dans tous les sens, et ça s'enrayait régulièrement, quoi. C'était un truc idiot. Mais moi j'ai tiré à côté de la cible pour ne pas qu'on me garde pour les élèves officiers, ce que je ne voulais absolument pas.
Et vous étiez où, somme toute?
À Ivreux.
En mars 68, à la veille du mouvement?
Oui, attendez, parce que j'ai passé mon temps à la Cinémathèque, parce que je n'allais plus à Nanterre, sauf quand il y avait des spectacles, du genre le Living Theatre, où Godard venait parler, je venais de temps en temps. Mais c'était très long, 1 heure et demie pour aller à la fac de Nanterre depuis la place de l'Étoile. Il fallait changer de bus, ensuite on arrivait à Nanterre, la folie, là il fallait longer à pied le grand bidonville, gigantesque bidonville effrayant que Jean Delmas par la suite a fait supprimer. Et pour arriver dans cette espèce de tour assez moche, qui était plantée dans la boue, quoi. C'était, il y avait pas grand monde. Et vous savez, vous aviez un cours le matin à 9h et un autre à 5h du soir. Qu'est-ce que vous faites entre les deux? Vous glandez, vous traînez dans les bistrots après les terrains vagues.
Mais c'est la vraie question. C'est-à-dire que vous aviez 22 ans. Si vous étiez à l'armée, de quelle manière est-ce que vous avez pris part aux événements en 68 précisément?
Ben, ils se sont passés à Nanterre, les événements en 68. Mais moi, j'étais à la Cinémathèque de Chaillot, en fait. Beaucoup plus, je voyais tous les films possibles. Et un jour, j'ai reçu un papier en me disant « Le 4 mars, on vous attend à la caserne du Bourget. Clac !» J'avais complètement oublié mon sursis. Du coup, je me suis retrouvé après à Ivreux pendant 16 mois, à m'emmerder comme un rat. Mais je revenais quand même tous les week-ends.
Avec le recul, quel a été votre 68, Patrick Rambaud?
Ben moi, je l'ai vécu surtout par la radio. Et puis, je revenais le week-end. Mes copains étaient, j'allais voir mes copains. Alors, j'avais des cheveux courts, mais eux aussi. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait les cheveux courts. Il n'y avait pas de cheveux longs à l'époque.
Et quel regard est-ce que vous portez sur le jeune homme que vous étiez à l'époque?
Ben, je suivais le mouvement. J'avais, comme je vous dis, j'avais dans les 20 ans. Et ben, je suivais ma génération. Et vous savez, c'était bizarre, la fac de Nanterre. On y envoyait essentiellement tous les jeunes étudiants du 8e et du 16e arrondissement.
Et c'est ça. C'est ça qui est fascinant dans votre livre. En réalité, Patrick Rambaud, vous faites le portrait dans les aventures de mai de cette génération, et notamment de personnages d'étudiantes et d'étudiants, fils et filles de bonne famille. Comme si pour vous, mai 68, c'était d'abord une révolution bourgeoise.
Mais c'était en effet ça, de toute façon, parce que il y avait des boursiers, comme on dit, qui vivaient à Nanterre. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Puis voilà, c'est tout. Et on traînait. Alors, à force de traîner, il s'est passé des choses. Ça a commencé par le bâtiment des garçons et le bâtiment des filles. Les appariteurs interdisaient aux garçons d'entrer dans le bâtiment des filles.
Enfin, ça, c'est le point de départ pour vous.
C'était un des points de départ.
C'est intéressant parce qu'en lisant ces chroniques qui avaient été d'abord...
Qui ne sont pas politiques, qui sont des chroniques de comment on vivait. Parce que je me souviens, à l'époque, c'était Edoui Plenel qui m'avait commandé le truc.
À la tête du monde.
Il m'avait dit, écoute-moi, parce que j'essaie d'expliquer mes 68 à ma fille qui a 16 ans, elle ne comprend rien. Essaye de faire un roman feuilleton pour lui dire comment nous vivions.
Il y avait toujours cet intérêt pour les coulisses, ce qui est votre spécialité, Patrick Rambaud, pour ce qui se passe derrière.
Tout se passe en coulisses, comme vous le savez toujours.
Mais alors, vous nous emmenez carrément dans le bureau du général de Gaulle, c'est un exercice de pure fiction, ça, je suppose.
C'était un roman feuilleton.
Mais comment vous faites pour trouver l'équilibre entre vérité historique et part nécessaire d'invention?
Mais écoutez, moi je partageais chaque journée en trois. Il y avait mes personnages, mes étudiants, et puis il y avait deux phénomènes historiques. Alors c'était soit on était chez les CRS, soit on était dans le bureau de Gaulle ou du préfet de police, etc. Je partageais comme un roman feuilleton. Et moi j'étais à Évreux, je sais pas, c'était effrayant. Donc j'étais secrétaire du capitaine, quoique de deuxième classe bien sûr. Ouais. Mais bon, je venais de, soi-disant, j'étais un peu éduqué, comme on dit. Et j'écoutais tout ça dans le bureau du capitaine, j'étais dans son bureau.
Alors il faut rappeler quand même ce qui se passe le 11 mai 68, et pour vous rafraîchir la mémoire, je propose de vous lire un court extrait de votre livre que vous avez publié il y a 20 ans exactement, pour les 30 ans de 68. Les fenêtres éclairées des immeubles illuminaient la rue Gay-Lussac comme un opéra, et au balcon de fer forgé, beaucoup de riverains suivaient avec sympathie l'édification de cette forteresse. Une femme chic apportait des biscuits, une autre de l'eau minérale et du poulet froid qu'on se partagea avec les doigts. Des commerçants ouvraient leurs réserves pour ravitailler les rebelles. Ils avaient sans doute l'impression de soutenir leurs enfants. Tout cela se vivait sans mot d'ordre, sans préparation, dans une joie pure. Il songeait au jeune Victor Hugo, quand il découvrit, à l'angle du passage Saumon et de la rue Montorgueil en 1832, ce paysage de barricades qu'il décrira dans Les Misérables. Voilà, il y avait le sentiment fort de rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire, et s'il ne s'agissait jamais que de cela, somme toute.
C'est possible, à l'époque personne... Qu'est-ce que c'était pour nous autres de la Pietà et les gens de la base qui ne lisaient pas des tracts compliqués toute la journée, évidemment. Ben, c'était un courant d'air, quoi. C'était ouvrir de l'air.
Mais quelle histoire, précisément? Dans quelle histoire s'agit-il de rentrer?
C'est une référence littéraire. Mais ça a changé beaucoup de choses dans la vie des gens, tout de même.
Dans l'histoire. De la révolution.
Révolution, n'exagérons pas, mais...
Bah, c'est ce que vous décrivez, là, dans ce texte.
Un peu.
Mais c'est intéressant, de ce parallèle que vous faites entre les barricades de la révolution de 1830 des Misérables, décrites par Hugo, et celle de mai 68. C'est comme si la révolution était à la fois un héritage et un fantôme. Cet esprit révolutionnaire, en France, il est passé où, à votre avis?
Il est passé dans la sieste, je ne sais pas où il est là en ce moment. Oui.
Vous ne voyez pas?
Je ne vois pas très bien.
Il n'est plus là?
Pour l'instant, c'est une période assez apathique d'attente. On ne sait pas d'attente de quoi d'ailleurs. Il n'y a pas de réaction sur rien en fait. C'est étonnant cette époque.
Ce qu'il y a derrière cet esprit de 68, j'ai l'impression, c'est aussi la tentation et le désir d'une aventure collective. Est-ce que le collectif, ça fait encore rêver aujourd'hui?
Je ne crois pas, alors qu'à l'époque, tout le monde dit que c'était... les gens ne pensaient qu'à eux, c'est absolument faux. C'était très collectif jusqu'en dans les années 70, d'ailleurs. Parce qu'après, en 70, moi, j'ai fait un journal qui s'appelait Actuel. On n'était pas très nombreux à l'époque, mais on ne signait pratiquement pas, parce que ça ne se faisait pas de signer, de se mettre en avant. C'était le collectif qui primait. Puis après, ça s'est éteint.
Pourquoi ça s'est éteint?
Parce que la flamme est tombée, et ça a affaibli, et je ne sais pas pourquoi, parce que les gens ne s'occupent plus que d'eux. Jamais les gens se sont autant photographiés eux-mêmes, vous avez remarqué quand même, comme c'est bizarre comme phénomène.
C'est juste.
Le selfie, il n'y a rien de plus con que le selfie quand même. C'est impossible d'être aussi con que ça. Il y a tellement de photos que les gens les jettent maintenant, on ne les garde plus. Autrefois, on faisait des photos pour les garder, là non. On se fiche soi-même sur ses écrans. C'est épatant.
Pour revenir à mai 68, Patrick Rambaud, j'ai l'impression que pour vous, c'est devenu en fait une aventure littéraire. Ces aventures de mai. Et c'est déjà pas mal.
C'est pas mal quand même, oui. C'est déjà ça.
En quoi est-ce qu'écrire l'histoire, c'est toujours quelque part la réécrire?
Je sais pas, écoutez, moi j'ai suivi ma génération, en fait. C'est tout.
Que vous avez réinventée, réécrite.
Bah, il fallait la raconter. Quand on raconte, on enjolive peut-être un peu.
Oui, mais c'est intéressant parce que les générations futures ne garderont peut-être que ce qui se trouve dans les livres. Bah, dans
j'espère,
ces livres-là.
Bah, j'espère bien que les livres resteront d'abord.
Une version fantasmée ?
C'est pas fantasmé, c'est ce que je... C'est l'impression que j'en ai eue.
Alors précisément, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne dans 50 ans, lorsqu'on parlera de 68 ?
Je vous dis, on ouvre les fenêtres et on crie de l'air. Parce que c'était pas drôle d'avoir 20 ans sous le général de Gaulle. C'était pas rigolo, c'était la censure, c'était très ennuyeux. Hein. Et on se sentait surveillé partout. Moi j'avais un copain au lycée Condorcet qui s'est fait renvoyer parce qu'il avait soi-disant les cheveux longs. Les cheveux longs, c'est comme moi aujourd'hui, quand j'ai comme vous. Parce qu'il fallait avoir les cheveux ras. C'était aussi bête que ça. Et d'ailleurs, au printemps, au magasin du printemps, on vendait des perruques Beatles en plastique. Alors, on achetait des perruques Beatles, vous voyez, ce genre de truc.
Vous en avez acheté une, vous ?
Ah, ben, bien sûr, j'avais ma perruque Beatles. C'était assez ridicule.
Est-ce que vous aviez une perruque de Jacques Dutronc aussi ?
Ah, mais Dutronc, il avait les cheveux courts.
Ouais, je sais pas. Enfin, il peut avoir une perruque de Jacques Dutronc.
Bah non, mais Dutronc, il chantait à l'époque, oui.
Il chantait quoi?
Bah, il chantait qu'il y a 5 heures, Paris s'éveille.
Oh
bah, dans ma caserne de départ, j'ai entendu ça 70 fois par jour. Donc ça m'est resté dans la tête. Il y a 5 heures, Paris s'éveille. Là, je n'avais plus pensé à autre chose qu'au mur de ma prison à l'époque.
C'est le texte ou c'est la petite musique qui est restée dans la tête?
Ah, bah, la ritournelle, tout l'ensemble, bien sûr.
On le chante?
Oh, je suis incapable de chanter, je n'ai pas de voix, j'ai une voix complètement fausse.
Vous êtes sur France Inter avec Patrick Rambeau, vous écoutez Boomerang, et temps de se lever, debout.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Boomerang sur France Inter.
Mai 68.
Augustin Trapenard.
Il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant.
Debout depuis 5 heures du matin, il serait en droit d'avoir un petit coup de mou. Hein. Et pourtant, il est là, frais comme un gardon, le teint lumineux derrière les longs poils de sa barbe grisonnante, sans la perruque des Beatles ce matin, l'œil vif et intelligent derrière ses lunettes rectangulaires, le corps tendu comme un arc prêt à bondir de sa chaise pour porter secours à une personne en détresse, à courir pour semer force de l'ordre après une rixe qui aurait mal tourné, à sauter d'un pont pour échapper à des bandits de grand chemin. C'est un aventurier, à n'en pas douter, avec son col roulé noir et sa petite veste grise, ses lunettes noires. Patrick Rambaud, halluciné ce matin et invité de Boomerang pour les aventures de mai, ces chroniques de 68 qui avaient paru, on le disait, dans le monde 30 ans plus tard et qui reparaissent bientôt. Vous étiez du genre à être déjà debout à 5h du matin, 68, vous ?
Je me levais très tôt autrefois, c'est vrai, maintenant je me lève plutôt tard, parce que après avoir travaillé la nuit toute ma vie. Mais oui, à l'époque, je me levais tôt.
Et aujourd'hui, vous dites que vous levez tard ?
Bah oui, comme ça, j'aime bien dormir.
En tout cas, dans votre livre, on se lève tôt. Hein. On se lève tôt pour faire la révolution.
À l'époque, oui.
Et vous nous faites découvrir certains moments forts de cette histoire, Patrick Rambaud. Et notamment l'occupation de la Sorbonne. Symboliquement, qu'est-ce que ça représentait, ça ?
La Sorbonne, ben c'est l'endroit où je voulais aller. Et on m'a envoyé à Nanterre, bêtement, parce que j'étais habité dans le 8e arrondissement. Clac, hop, Nanterre. Je voulais aller à la Sorbonne parce qu'il y avait tous les cinémas autour et j'avais ma carte d'étudiant, j'avais les réductions dans les salles d'art et d'essai, ce que je souhaitais le plus au monde. Parce que les études ne m'ont jamais amusé ni intéressé, il fallait le faire. Bon, allez, on s'inscrit.
Alors, occuper la Sorbonne, ça voulait dire quoi ?
Ah ben, la Sorbonne, c'est le symbole des études, c'est le sommet. Hein, c'est là où allait tout le monde, en principe, depuis des siècles.
L'élite ?
Oui, alors, l'élite, on disait pas, on parlait pas de ça à l'époque.
On parlait de quoi ?
Bon, on disait rien, on disait les étudiants. Mais il y avait beaucoup moins d'étudiants qu'aujourd'hui, évidemment.
Et pour poursuivre le parallèle avec les autres révolutions, est-ce que vous diriez que la Sorbonne, c'était la Bastille des manifestants de 68 ?
Pour ne pas exagérer, la Bastille, ce n'était pas grand-chose sur le moment. C'est le symbole qui est resté. Mais bon, il y avait quoi ? Il y avait trois malheureux en tôle à la Bastille à l'époque, hein, en 89. Il devait être trois ou quatre, pas plus.
Ben là, précisément, c'est pareil. C'est le symbole de la Sorbonne qui est resté.
C'est le symbole, oui, c'est le symbole.
Puis il y a eu l'Odéon aussi.
Ah, l'Odéon, c'est autre chose encore. Oui. J'ai connu par la suite, parce qu'il a travaillé pour Actuel. Un agent secret espagnol qui s'appelle Luis González Mata,
à Londres,
qui a fait beaucoup d'articles et qui, à l'époque, travaillait pour le CO espagnol, c'est le service secret espagnol, c'est-à-dire la CIA. Et il était médecin de la Sorbonne. Il avait mis une blouse blanche et il venait à la Sorbonne comme toubib, alors qu'il était agent secret, espion de la CIA, où à l'époque, la CIA brûlait des bagnoles pour en rajouter. Quoi.
C'est éminemment romanesque.
Mais c'est vrai en plus, c'est effrayant. Il me racontait tout ça, c'était assez drôle après.
C'est un réservoir de romans, précisément, oui. Mai 68.
Oui, sauf qu'il n'y en a pas eu. Je vous ai remarqué qu'il n'y a pas eu de roman.
Bah vous, qu'est-ce que vous avez écrit, Patrick Rambaud ?
C'est peut-être le seul, c'est un roman feuilleton, moi. C'est un roman feuilleton, parce qu'il va le faire comme ça, dans l'urgence, au jour le jour.
Peut-être que 68 ne peut se réaliser qu'en roman feuilleton, précisément.
Ben j'espère bien, je pense bien. Enfin, on va voir, j'en sais rien.
Peut-être. Ah, vous voulez être le seul, en fait.
Il n'y en a pas. Quittez-moi un roman sur mai 68. Vous ne trouverez pas, je ne crois pas. Et ah, mai 68, dans le fond, comme ça, ou dans un chapitre qui passe. Mais il n'y a pas de roman sur le mois de mai, non.
Vous voulez dire un roman tout entier qui serait consacré à ces événements seulement ?
Bah oui, bah c'est ce que j'ai fait là. C'est un roman feuilleton uniquement consacré, d'ailleurs dans les limites du mois de mai. Moi je m'en fous que ça existe ou pas.
Mais qu'est-ce que ça révèle le fait qu'il n'y en ait pas ?
Bah ça révèle que les gens n'ont pas raconté cette époque. Ils ont fait des livres c'est théoriques, alors là il y a des pelletées entières, des rasoirs, il y en a plein. Et puis voilà, parce que moi je ne comprenais rien aux tracts à l'époque, hein, les tracts du 22 mars, tout ça, je n'y comprenais, je les ai encore, hein. Je n'y comprenais rien, parce que c'était un jargon abominable, et j'ai horreur du jargon, moi je ne supporte pas, je ne peux pas traduire les jargons.
Mais vous les gardez quand même ?
Mais je les ai gardés en souvenir, oui, en souvenir d'une époque assez curieuse tout de même.
Qui vous manque en fait ?
Qui me manque absolument pas, parce que c'est idiot, on peut pas avoir un manque sur un truc qui s'est passé il y a 50 ans.
Bah si !
Mais non, mais c'était amusant, intéressant.
Dans quelle mesure ça a nourri votre écriture, votre travail, votre parcours de romancier ?
Rien, ça n'a rien changé à ça. Je voulais écrire des romans, des livres avant, et puis j'en ai écrit après, et puis voilà.
À aucun moment ça n'a été un jalon pour vous ?
Non. Absolument pas, non. C'était une série d'événements intéressants qui ont modifié beaucoup de choses dans notre comportement, en général.
Vous dites dans le livre que l'Odéon, une fois occupé, ça sent le boudin.
Oui, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Mais...
Moi non plus, je vais vous poser la question, Patrick.
Oui. parce qu'on mange il y a des barbecues partout, quoi.
C'est pour ça. Pas métaphoriquement, ça sent le boudin, ça veut dire.
Oui,
ça
peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est, oui.
En fait, ce que vous faites surgir hein, dans vos descriptions de ce qui est censé être un grand moment de la révolte, ce sont des aspects purement pratiques, logistiques, irrémédiablement comiques. En réalité.
C'est inévitable, heureusement, d'ailleurs.
Alors, c'est la malpropreté, ce sont les problèmes d'approvisionnement, les campements de fortune. Comme si votre intention, en fait, c'est, tout en célébrant 68, c'était de le démythifier.
Non, c'est de montrer à quoi ça ressemblait, c'est tout. De faire une description des choses. On ne peut pas faire grand-chose, hein, sinon enregistrer et puis raconter, c'est tout. On ne peut rien faire d'autre.
Oui, mais ce sourire que vous avez tout au long du livre, Patrick Rambaud.
J'en sais rien, je suis comme ça, j'en sais rien, c'est pas de ma faute.
Ça veut dire que vous regardez tout avec un peu de distance?
Il y a intérêt quand même, oui.
Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse qui exalte mai 68 aujourd'hui?
D'abord, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. C'était une grande règle de l'époque. Et puis... Respirons, quoi. De l'air, comme je disais tout à l'heure.
Mais vous décrivez des personnages qui se prennent parfois au sérieux.
Eh bien, ça, forcément, il y en a. Puisqu'il y en a qui se prennent au sérieux, il faut bien les montrer. Tout le monde n'est pas hurlé de rire sans arrêt, il ne faut pas exagérer.
Mais ça vous fait quoi d'entendre des jeunes d'aujourd'hui, oui. qui ont 20 ans, oui. 25 mais ans, même plus jeunes.
Ils ne comprennent pas l'époque. Ils ne peuvent pas comprendre que, moi, quand, je ne sais pas, même en 70, quand je suis arrivé là dans les Halles, j'ai mis 3 ans pour avoir le téléphone. Je ne peux pas comprendre ça. Téléphone, on achète un machin et ça marche tout de suite. Là, c'était 3 ans, j'étais journaliste. Donc, il ne peut pas comprendre que c'est très compliqué. La communication était compliquée à l'époque.
L'un de vos héros, Patrick, est fils d'un député, je crois. On le retrouve 30 ans après mai 68. Et voilà ce qu'il dit 30 ans après. Des images remontent. C'était avant l'ère électronique qui uniformise, avant le chômage, avant la mendicité instituée, avant le sida. Portaillé rêve d'un monde où la conversation remplacerait la communication. Lui revient ce slogan de Nanterre, tracé par les situationnistes après la première intervention des policiers sur le campus. Avant la cybernétique, les flics. La cybernétique, on y patauge. La plupart des étudiants de mai ne l'avaient pas vu venir avec une telle ampleur totalitaire, ou bien ils y fourraient leurs utopies, comme ces braves gens du siècle dernier qui s'extasiaient devant les machines. Si elles ont remplacé l'homme, ça n'a pas été pour le délivrer, mais pour le broyer. Et Internet ? Est-ce un effet pervers de mai, des forums de la Sorbonne et de l'Odéon? Le goût immodéré de la parlotte a déjà ravagé les années 70, lorsqu'il valait mieux ne pas apprendre à se tenir en scène pour jouer au théâtre et ignorer la grammaire pour écrire. L'accumulation remplace désormais le savoir. Celui qui maîtrise la rumeur domine le monde. Des générations entières vont avec plaisir et docilité se laver la cervelle.
Mais je suis assez d'accord, figurez-vous.
Non, mais j'espère.
J'écris il y a 20 ans, mais je pourrais le refaire aujourd'hui.
C'est vrai. Vrai.
Mais bien sûr.
C'est une des questions que je voulais vous poser.
Mais bien évidemment, c'est pareil. Là, nous allons vers le meilleur des mondes. Un de Huxley, qu'il faut relire d'ailleurs. Et nous y allons tout droit. C'est évident, c'est la ligne de ce que j'ai écrit il y a 20 ans. Et ben, c'est exact. Moi, j'en lève pas une virgule. C'est exactement ce que je pense aujourd'hui.
Oui. Vous êtes si pessimiste que ça?
Vous me dites que je rigole tout le temps et que je suis pessimiste. C'est possible, oui, c'est possible d'ailleurs.
Bien sûr, elle est pessimiste.
Je ne suis pas très optimiste, en fait, oui. on ne peut pas dire que je sois un décrottable optimiste.
Mais surtout, à vous lire, et c'est assez réjouissant. Hein. C'est comme si le 68-art, quelque part, était devenu un brin réac. Hein. Adepte du « c'était mieux avant », du retour à l'ordre aussi, je me trompe?
Non, je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne raisonne pas
là, dans
en
ce
terme,
texte, le personnage, il dit « c'était mieux avant ».
Certaines choses, oui, certainement. Oui, il y a des choses qui étaient plus intéressantes. Les gens se parlaient. Ça change beaucoup de choses. Il y avait un esprit de conversation quand même qui existait encore. Le lien avec le passé n'était pas cassé encore.
Quand est-ce qu'il est né ce désenchantement, Patrick Rambaud? Après mai 68, vous l'imaginiez comment, futur?
Exactement comme je le dis. Là.
Vraiment?
Absolument, oui.
Il n'y avait pas d'utopie, il n'y avait pas de...
Il y avait quelques rêves idiots, mais tous les rêves sont un peu idiots. Oui. Mais non, j'étais revenu un peu de tout avant.
C'est un éternel déçu?
Non, je ne suis pas croyant, je ne crois en rien. Et j'ai été très vite dessalé là-dessus, j'ai tous les croyances, par une voisine. J'habitais rue Washington à l'époque, j'avais 16-17 ans, et j'avais une voisine qui était Gabrielle Buffet, qui était la première femme de Picabia.
Bien sûr.
Et j'allais la voir tous les jours pendant des années. Et elle me disait des choses absolument intéressantes, passionnantes, pour me casser les mon cou. J'étais très surréaliste, par exemple. Et elle me disait, vous savez, parlait d'André Breton, vous savez, André n'était pas très intelligent. Elle me disait des choses comme ça, et je réfléchissais, je disais, elle n'a peut-être pas tort. Moi, il ne faut plus être croyant. Elle m'a cassé cassé mon cou avec Marcel Duchamp, qui venait souvent dîner chez elle quand il était à Paris.
Vous manque ces gens-là?
C'est pas qu'ils me manquent, parce qu'ils sont morts depuis longtemps déjà. Elle avait 104 ans quand elle est morte, hein, Gabrielle. Mais j'y repense beaucoup parce qu'ils m'ont énormément servi.
À quoi être lucide, Patrick Rambaud?
À arrêter de croire à des imbécilités sans arrêt et de s'envoler dans des conneries. Et il m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé.
Et cet humour, il vient de là aussi?
Je sais pas. Moi, le premier livre que j'ai lu quand j'avais 5 ans, c'était Les Denigots de la comtesse de Ségur. C'était gratiné, je vous assure que c'est le livre le plus méchant que je connaisse.
En quoi?
Il n'y a que des imbéciles dedans, y compris les animaux. C'est rare. Relisez ou lisez Les Denigots.
Chez Flaubert aussi.
Oui, mais alors là, c'est encore plus marqué. C'est beaucoup plus marqué.
Moi, ce qui m'interpelle dans le texte qu'on a lu, c'est ce que vous dites aussi, Patrick Rambaud, sur la démocratie en creux. Une démocratie qui ne serait que parlotte.
C'est vrai, mais c'était bien aussi de parler. Les gens, dans la rue, s'arrêtaient, se parlaient. C'est extraordinaire, quand même. C'est terminé, ça, depuis longtemps. Personne ne se parle, comme vous le savez. On fait les débats, il n'y a rien de pire que les débats. Aujourd'hui, il n'y a plus de conversation, c'est exact ce que je dis.
Alors, est-ce qu'on le trouve, le vrai dialogue?
Il faut s'arrêter 5 minutes, il faut jeter tous les appareils à la branle neuve, et puis recommencer à parler, vivre normalement.
Dans les livres aussi, avec vos lecteurs?
Les livres, ça aide, bien sûr, j'espère. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que des livres? Donc, je continue à en faire.
Et la radio aussi?
La radio, oui, la radio, mais je n'ai pas fait de radio, en fait. Pas
pour... Ah ben là, vous en faites, on est en train d'en faire,
oui,
on discute.
On discute. On discute parce qu'on n'a pas à se convaincre, de toute façon. C'est ça.
Ah, savez, moi, vous avez à me convaincre, Patrick Rambaud, j'y étais pas.
Mais oui, mais je vous raconte, je ne vais pas vous convaincre, je vais vous dire ce que nous avons vécu à l'époque. Comment on était habillés, enfin, les blazers, on avait tous des Shetland et des machins comme ça, quand même. Et des cheveux courts, bah, ça, je vous raconte ça, bon. Mais c'est la description.
Et puis de l'air?
Et puis de l'air.
Merci infiniment, Patrick Rambaud, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que vos truculentes aventures de mai sont republiées chez Grasset. Elles sortiront en réalité le 11 avril, mai 68. Ça continue sur France Inter et demain dans Boomerang avec le jeune philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. What's Chasing You sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, ça va Sonia?
En pleine forme. Salut Augustin, à demain.